France Inter.
Et c'est le journal d'Éric Delvaux. Bonjour mon cher Éric.
Bonjour Karine Bécard et bonjour à tous. À la une de ce 13h, ne pas laisser le RN faire sa loi. Le slogan des écologistes et des insoumis qui commencent à se réunir à Paris contre le meeting du Rassemblement National prévu aujourd'hui aussi à Paris. Et dans ce face-à-face politique, Gabriel Attal tente d'imprimer sa marque avec un meeting Renaissance en ce moment, prévu de longue date comme un dimanche de campagne électorale. Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, le politologue Philippe Moreau-Chevrollet. L'image du jour, elle vient d'Italie. Apparition surprise ce matin. Le pape en fauteuil roulant parmi les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome. Nous serons en Allemagne pour la commémoration des 80 ans de la libération du camp de concentration de Buchenwald. En France, des motards en colère à Lyon ce matin. On verra pourquoi dans un instant avec Mathilde Imberti. Et puis nous irons à Lorient pour l'affiche du prochain festival de musique interceltique. Ce sera dans 3 mois. Invitation faite cette année à des musiciens américains. Et puis le temps de ce dimanche, Magali Rochereau, avec un soleil toujours généreux cet après-midi.
Oui Eric, mais on sent un net rafraîchissement des températures.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Nous ne sommes qu'à 2 ans de la présidentielle et c'est un peu comme si la campagne présidentielle débutait dès ce dimanche. 3 meetings, RN, la gauche des unis cet après-midi à Paris et dès ce matin à Saint-Denis, le camp présidentiel Renaissance et Modem. Meeting prévu de longue date par Gabriel Attal afin de compter ses troupes et d'imprimer sa marque. Gabriel Attal rejoint ce matin par François Bayrou qui renvoie dos à dos toutes les radicalités.
Que veulent les extrêmes? Travailler avec les extrêmes. Extrême droite, extrême gauche. Nous voulons travailler avec toutes les sensibilités du peuple français, toutes celles qui respectent le droit, la justice et les valeurs des droits de l'homme que nous avons défendu dans le cadre européen. Merci à tous.
François Bayrou, il y a un quart d'heure à la tribune de cette réunion à Saint-Denis, un Premier ministre plus 2 anciens Premiers ministres sur scène. Donc, bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Saint-Denis. Gabriel Attal veut apparaître à distance comme la solution au seul face-à-face entre le RN et la gauche divisée.
Oui, Gabriel Attal a dû changer ses plans hein, en quelques jours. Dès que le RN a annoncé cette semaine sa manifestation aujourd'hui à Paris, ce grand rassemblement du Parti Renaissance ici à Saint-Denis a pris une toute autre dimension, celle d'un supposé face-à-face Attal-Le Pen, d'un choix pour ou contre la Trumpisation de la France, comme l'appelle l'entourage de Gabriel Attal. Alors l'ancien Premier ministre, avant même son discours de clôture prévu en fin d'après-midi, a lancé ses premières banderilles contre le RN ce matin.
L'extrême droite qui se réunit aujourd'hui pour attaquer nos juges, attaquer nos institutions. Cette valeur de défense de notre état de droit, malheureusement, elle devient singulière dans le débat public. Et nous ici, nous ne disqualifierons jamais une décision de justice. Nous ne dirons jamais qu'il y a des juges rouges, des juges blancs, des juges autres, surtout dans un moment comme on traverse aujourd'hui, où tout est contesté.
Mais l'autre grand enjeu de cette journée, ce sont bien sûr les prochaines échéances électorales, officiellement les municipales l'an prochain, officieusement la présidentielle en 2027. Gabriel Attal veut montrer qu'il peut lui aussi incarner ce bloc central à la suite d'Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs fait applaudir par les 8000 militants présents ici et sous les yeux de son rival Édouard Philippe. Le maire du Havre est lui déjà candidat et a quelques points d'avance dans les sondages sur Gabriel Attal. Mais pour combien de temps? Bref, c'est aussi une course de fond de 2 ans qui commence ce dimanche, ici comme ailleurs.
Et Julien Nenni en direct de Saint-Denis, près de Paris, avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Alors que le centre joue donc l'unité, eh bien la gauche, en revanche, se présente désunie sur la riposte à apporter au Rassemblement National qui tiendra donc meeting cet après-midi. À gauche, écologistes et insoumis se donnent rendez-vous à Paris, place de la République, où vous êtes, Béatrice Duguet, bonjour.
Bonjour.
Insoumis et écologistes ne veulent pas laisser le RN faire sa loi, c'est le slogan à gauche, hein.
Exactement, c'est ce qu'il y a écrit sur la banderole, sur la mini-scène installée juste à droite de la colonne de la République. Les militants et les sympathisants sont en train d'arriver. Aucun ne dénonce une justice à 2 vitesses comme peut le faire le Rassemblement National et ses militants. Alors ce ne sera pas la mobilisation du siècle, hein, sans faire injure aux organisateurs et aux manifestants. Quelques petites centaines de personnes pour l'instant. À l'appel donc de la France Insoumise, des Verts, auxquels se joignent des syndicats étudiants, Génération aussi, le parti de Benoît Hamon. pas de parti socialiste, pas de parti communiste. C'est un rassemblement d'urgence, vient de dire Marine Tondelier, le leader des Verts, qui promet d'être là pour d'autres rassemblements à venir, le 12 avril par exemple, à l'appel des syndicats cette fois. Nous serons toujours là, a-t-elle ajouté, quand l'état de droit sera menacé. Aujourd'hui, il ne fallait pas que les Français, dit-elle, qui sont devant leur chaîne d'actualité, ne voient que le Rassemblement national pour l'instant. Donc, rassemblement modeste ici, place de la République.
Béatrice Duguet en direct avec Martin Trouadec pour les moyens. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonjour.
Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi président de l'agence MCBG Conseil. Trois meetings donc aujourd'hui, RN, Renaissance et la gauche des Unis. Est-ce déjà le coup d'envoi de la campagne présidentielle ?
Oui, on a basculé dans la campagne pour l'élection présidentielle de 2027 assez brutalement avec cette condamnation de Marine Le Pen et avec un casting qui va être inédit hein, puisqu'on risque d'avoir Jordan Bardella, donc moins de 30 ans pour l'extrême droite, très connecté avec l'extrême droite globalisée, c'est-à-dire celle de Donald Trump, d'Elon Musk, et puis des candidats qui ne sont pas encore complètement définis et une interrogation sur la capacité de la gauche à présenter un candidat unique.
Oui, alors on va faire des allers-retours entre les différents meetings. Gabriel Attal qui cherche à imprimer sa marque. Sa journée prévue de longue date aujourd'hui risque-t-elle d'être éclipsée par les deux rassemblements du RN et de la gauche montés à la hâte ?
Oui, complètement. Parce que le vrai suspense, c'est de savoir aujourd'hui si l'extrême droite va réussir sa mobilisation. D'abord parce que eux-mêmes en ont fait un enjeu, et puis ensuite parce que l'extrême droite a semblé, enfin le RN a semblé prendre à rebours ses propres électeurs qui étaient partis quand même plus sur tête haute, main propre, le slogan habituel du RN que sur cette adaptation d'une certaine façon à la condamnation de Marine Le Pen.
Et le comptage des troupes, justement, durant ces trois meetings, ce sera l'un des marqueurs de ce dimanche, vous l'évoquiez. Y a-t-il un risque donc réel pour la gauche de moins rassembler que les autres aujourd'hui ?
Tout le monde prend un risque aujourd'hui, la gauche de moins rassembler que le RN, effectivement, et puis de paraître désunie. Ça, c'est ce qu'on risque de retenir de la journée, avec ce clivage LFI gauche traditionnelle qui est quand même de plus en plus marqué. Le RN en ne rassemblant pas, tout simplement, ce qui montrerait qu'effectivement, l'opinion publique est plutôt contre ce qui est en train de se dérouler. En tout cas, cette espèce de discours de réel politique du RN sur la condamnation de Marine Le Pen. Donc tout le monde prend un risque aujourd'hui en réalité.
Sur cette gauche qui apparaît désunie aujourd'hui, insoumis et écologiste, sans le PS, sans les communistes, est-ce que ça préfigure la présidentielle de 2027 ?
C'est une préfiguration de la présidentielle avec l'inconnu de savoir si Jean-Luc Mélenchon pourrait, ce qui paraît quand même très improbable, mais céder sa place ou remettre en jeu son siège de candidat inévitable à gauche, sachant que s'il est candidat, très vraisemblablement, il est le seul à pouvoir passer le premier tour. Il va éclipser les autres candidats de gauche et on aura très probablement un gros sujet à gauche, un point d'interrogation sur la capacité à revenir un jour au gouvernement.
À propos du RN qui a choisi le rapport de force avec les juges, avec le pouvoir, le peuple contre les juges, est-ce que ce meeting cet après-midi du RN comporte pour le parti un risque de trumpisation qui pourrait faire fuir les derniers adhérents, ceux qui sont arrivés en dernier ?
C'est une rupture historique pour le Rassemblement national. On passe, disons, de l'extrême droite en deux chevaux, hein, qui était un peu l'héritage de Marine Le Pen, cette PME familiale, à une extrême droite qui roule en Tesla, avec probablement un jeune leader appuyé, on le pense en tout cas, il a fait des clins d'œil de ce côté par Elon Musk ou par Donald Trump, qui se sont investis hein, en soutenant Marine Le Pen. Marine Le Pen a aussi reçu le soutien de Vladimir Poutine. On rentre dans une logique extrêmement différente pour le RN. C'est vraiment une mue qui va être compliquée à deux niveaux. Les électeurs, eux, ils étaient partis dans cette logique de normalisation instaurée par Marine Le Pen. Ça avait permis de gagner sur les CSP+ et les électeurs âgés. Et puis du côté du gros des troupes, il y a quand même, enfin, c'est quand même le parti à la base de la lutte contre la Merci. Corruption. Voilà, donc c'est quand même très compliqué.
Merci beaucoup de cet éclairage politique, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Le pape convalescent a fait une apparition surprise ce matin parmi les fidèles place Saint-Pierre de Rome. Bon dimanche à tous, merci beaucoup, leur a-t-il lancé. Le pape, 88 ans, est soigné pour une double pneumonie. Il est arrivé sur un fauteuil roulant, des canules nasales à oxygène au milieu de son visage pour mieux respirer. Le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens en vie, preuve de vie de deux hommes toujours retenus dans la bande de Gaza. Ils ont été enlevés le 7 octobre 2023. Israël a authentifié cette séquence d'un peu plus de 2 minutes, Amira Swilem.
La guerre des nerfs. Avec cette vidéo de moins de 3 minutes, le Hamas entend frapper là où ça fait mal. Les yeux braqués sur la caméra, Bar Cooperstein, 23 ans, et Maxime Erkin, 35 ans, racontent les bombardements de ces derniers jours. L'un arbore un bandage à la main, l'autre, une certaine fébrilité. C'est la première preuve de vie pour l'un d'entre eux. Le message du Hamas est clair, la reprise des hostilités met en danger la vie des otages. Depuis la reprise de la guerre par Israël le 18 mars dernier, la colère monte chez les proches des otages qui craignent pour la vie des 24 Israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza. Le Hamas joue là-dessus alors que l'armée israélienne a élargi son opération au sol. Il y a 2 jours, le groupe armé palestinien avait déjà prévenu. Il maintiendra sur place les otages se trouvant dans des zones que l'armée israélienne demande d'évacuer, la tenant par avance pour responsable de leur mort éventuelle. En même temps que les bombardements, c'est donc la guerre psychologique qui monte aussi d'un cran. Un jeu dangereux. Le premier ministre Benjamin Netanyahou avait menacé, je cite, « d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza ». Si tous les otages n'étaient pas libérés.
Et Benjamin Netanyahou, qui est attendu demain à Washington, selon un média américain, le Premier ministre israélien va tenter de convaincre Donald Trump de renoncer à imposer à Israël des droits de douane de 17%. C'était une correspondance au Proche-Orient d'Amira Swilem. L'Iran rejette une nouvelle fois toute négociation directe avec les États-Unis sur son dossier nucléaire. Une fin de non-recevoir à la suggestion du président américain Donald Trump. Téhéran préfère des négociations indirectes, Siavosh Ghazi.
Des négociations directes avec un pays qui menace constamment de recourir à la force et dont les responsables tiennent des positions contradictoires n'ont pas de sens, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Mais il a ajouté que Téhéran était prêt à des négociations indirectes pour permettre la levée des sanctions contre son économie, mais aussi donner des assurances sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Cette déclaration intervient alors que le président Trump a affirmé vouloir des négociations directes avec Téhéran plutôt que de passer par des intermédiaires. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment en envoyant une dizaine de bombardiers B-2 capables de détruire les installations nucléaires iraniennes enfouies sous la montagne. Le rejet de toute négociation directe intervient également alors que le premier ministre israélien doit se rendre à Washington pour parler notamment du nucléaire iranien. Plusieurs responsables à Téhéran, notamment Ali Larijani, conseiller du guide suprême, ont affirmé qu'en cas d'attaque américaine, l'Iran n'aura d'autre choix que d'aller vers la construction de l'arme atomique.
Siavosh Ghazi en ligne de Téhéran. Le camp de concentration de Buchenwald commémore aujourd'hui les 80 ans de sa libération dans ce camp du centre de l'Allemagne. Parmi les 280 000 détenus, 56 000 ont été exterminés par le régime nazi. L'un des survivants, l'écrivain espagnol Georges Samprin, a fait le récit de sa déportation dans un livre intitulé « L'écriture ou la vie ». Eh bien, pour commémorer cet anniversaire aujourd'hui, 30 jeunes français et allemands vont lire des extraits de ce texte à l'intérieur du camp. Un projet préparé de longue date, reportage à Buchenwald de notre correspondant en Allemagne, Sébastien Baer.
Cette fois, c'est au tour de Michaela, 24 ans, d'interpréter l'extrait qu'elle a appris par cœur.
Des dizaines de yeux exorbités nous avaient regardé passer.
La jeune femme est assise près d'une clôture barbelée à quelques mètres du petit camp où sont morts des milliers de déportés.
On voit la cheminée du crématoire, on voit l'entrée de Buchenwald au loin, même les miradors qui sont sur les côtés. On se dit, les choses sont réelles.
Assis sur un banc au soleil, Mohamed relit son texte. Pour participer au projet, le jeune homme de 18 ans a abandonné son étal de fruits et légumes sur le marché de Clichy-sous-Bois.
Franchement, je ne savais rien du tout. Même l'existence du camp, je ne le savais pas. Et quand tu vois ça en vrai, tu lis ton texte devant le crématoire, ça te fait un choc.
C'est très beau.
Jean-Baptiste Sastre corrige une position, demande de varier le rythme. Il met en scène le texte avec sa collègue Yamabas.
C'est une grande joie de voir cette génération s'emparer de ce texte. Dans ce lieu.
Samprin s'est posé la question, qu'est-ce qui se passera après la disparition de tout survivant? C'est de là aussi est venue cette idée de transmettre ce texte pour une génération qui pourra continuer à témoigner des camps nazis.
ma vie s'en
À l'ombre d'un être, Cindy répète sa chanson. Après Buchenwald, les jeunes artistes seront sur scène à Berlin la semaine prochaine avant de se produire dans un théâtre parisien au mois de juin. Buchenwald, Sébastien Baer, France Inter.
De fortes pluies se sont abattues ce matin sur la Birmanie. Après une accalmie, elle devrait reprendre dans la journée ces pluies. Et ce qui complique donc un peu plus les opérations de secours et qui aggrave les conditions de vie des rescapés qui vivent et dorment souvent dehors. Le bilan du séisme du 28 mars est de 3500 morts, bilan évidemment toujours provisoire. En France, 200 motards en colère à Lyon ce matin. Mobilisation contre les ZFE, cette mesure qui empêche les véhicules polluants de rouler dans certains quartiers. À Lyon donc, les motards sont soutenus par le collectif dit des gueux. Collectif lancé par l'écrivain Alexandre Jardin qui dénonce une mesure antisociale. Un projet de loi prévoit pourtant de supprimer les zones à faible émission. Le texte arrivera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, mais Lyon comme Paris pourrait être exempté de cette suppression. À Lyon donc, les motards maintiennent la pression. Reportage de Mathilde Imberti.
Et ils se retrouvent devant la métropole de Lyon, collectivité dirigée par les écologistes. De l'escrologie, grince un des participants. Paul est organisateur pour les motards en colère.
Les motards sont concernés, mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Nous ne luttons pas contre l'écologie et contre l'amélioration de la qualité de l'air pour tout le monde. Par contre, nous sommes opposés au fait que l'on trie.
Depuis le 1er janvier, les critères 3 n'ont plus le droit, en théorie, de circuler, soit un peu plus de 40 000 voitures concernées dans Lyon et la Petite Ceinture. Beaucoup prennent le risque de l'amende, comme Jérôme et André.
J'ai l'impression qu'on est un délinquant. C'est surtout qu'une voiture moyenne, même une petite, c'est 25-30 000. Et je ne parle même pas des électriques. On est les exclus de la société.
Moto de 98, donc j'ai pas de critères. Et la voiture, critère 3. Mais je viendrai quand même à Lyon pour aller à la Croix-Rousse, pour aller à l'hôpital. Voilà. Je paierai 69 euros au lieu de me faire un crédit de 300 euros que je ne peux pas payer parce que je suis à la retraite. Non, pour le moment, il n'y a pas de contrôle, mais ça viendra un jour ou l'autre parce qu'à Lyon et Paris, ils veulent garder les zones.
La ZFE est perfectible, convient la métropole, qui veut relever son impact positif sur la qualité de l'air. Atmo, l'organisme qui mesure la pollution, projette avec l'interdiction des critères 3 une baisse des émissions d'oxyde d'azote de l'ordre de 20% dans Lyon et sa périphérie.
Mathilde Imberti à Lyon. Voilà un fait rarissime. Une greffière du tribunal judiciaire de Marseille a été incarcérée. Cette fonctionnaire d'une trentaine d'années est soupçonnée d'avoir transmis des informations judiciaires à un trafiquant avec qui elle entretenait une liaison. Le sport avec le Tour des Flandres, départ donné ce matin à 10h de Bruges. Il y a 269 km à avaler à travers les monts flandriens. Le néerlandais Mathieu Van Der Poel est l'un des favoris pour se succéder à lui-même. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Van Der Poel l'un des favoris. En tout cas, le néerlandais devra batailler avec le Slovène Tadej Pogacar. Après Milan-San Remo, c'est donc aujourd'hui un peu l'acte 2 de leur duel.
Oui, avant l'acte 3, la semaine prochaine, du côté de Paris-Roubaix. Mais c'est vrai qu'on attend avec impatience ce duel. Les choses sérieuses vont d'ailleurs pas tarder à commencer. On a passé la mi-course, on a passé un premier passage du côté du Vieux Coiremont, le premier mythe de ce Tour des Flandres. Et désormais, les difficultés vont s'enchaîner. Alors la situation de la course pour le moment, on a 8 coureurs en tête. Ils ne joueront pas la bagarre pour gagner tout à l'heure à Audenarde. Ils ont 4 minutes et 20 secondes d'avance. Ils sont contrôlés par les équipes de leaders, par les équipes, bien sûr, vous l'avez dit, de Mathieu Van Der Poel et de Tadej Pogacar, deux favoris de la course qui sont d'ailleurs aux avant-postes. On aperçoit également Wout Van Aert et Mats Pettersen, les outsiders.
Fanny Lechevestrier sur la route des Flandres, le Tour des Flandres. Une autre musique à présent avec la programmation du prochain festival interceltique de Lorient. C'est dans une centaine de jours. Les musiques interceltiques invitent cette année des artistes américains, bien loin des tensions géopolitiques actuelles. Le Festival de l'Orient veut rapprocher la diaspora celtique des deux côtés de l'Atlantique. Brune Benedini.
Les cousins d'Amérique, c'est le thème de cette 54e édition. Pourtant, ni le Canada, ni les États-Unis ne font partie des nations celtiques.
En fait, c'est un peu surprenant.
Marc-Antoine Dumas, directeur du Centre culturel canadien, reconnaît toutefois des similitudes entre les deux cultures qui s'expliquent par différentes migrations.
On a plusieurs cultures dans l'Est canadien, surtout en Acadie, où on retrouve vraiment ces cultures à la fois qui viennent de l'Écosse, de l'Irlande, mais aussi de la Bretagne.
Une diaspora celtique bien représentée à Lorient cet été, avec la chanson chanteuse québécoise Linda Lemay, ou encore le groupe irlando-américain Solas. Mais alors que des tensions entre les États-Unis et le Canada s'amplifient ces derniers mois, les artistes ne sont pas touchés. Jean-Philippe Moras, directeur artistique du festival.
Ils sont plutôt justement très heureux que sur un point de vue culturel, sur un point de vue artistique, il n'y ait pas de frontières et que ce n'est pas à ce niveau-là que se passe le problème. Et heureusement, pour l'instant, le contexte culturel et artistique n'est pas touché.
Le festival interceltique de l'Orient promet 10 jours et 10 nuits de rencontres et d'échanges autour de l'interceltisme. Début des festivités le 1er août prochain.
Ignou et Cornemuse au programme avec ce festival de l'Orient, festival des musiques interceltiques. Le temps.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Eh bien le ciel est couvert sur le sud-ouest.
Oui Eric, la bande littorale atlantique est toujours sous les nuages qui s'étiolent peu à peu pour laisser passer de belles éclaircies entre l'Occitanie et l'Aquitaine. Mais les averses se maintiennent, elles, sur le piémont pyrénéen et en Corse aussi. Les nuages pourront donner quelques orages. Sur le reste du territoire, en revanche, le soleil brille à l'intérieur d'un beau ciel bleu.
Oui, et les températures plus fraîches.
Oui, même si les maximales restent souvent douces en moyenne, Météo France prévoit 20 degrés dans la capitale. Un net rafraîchissement se fait sentir dans le nord-est, du côté de la Lorraine, de l'Alsace, du Sud-Champagne et de la Bourgogne, avec un vent sensible, voire fort, jusqu'en plaine et le long du Rhône, qui se décline aussi en tramontane à 70 km/h du côté de la Méditerranée, de Dijon au delta du Rhône et jusqu'à Montpellier. Cette baisse des températures va se poursuivre demain matin avec l'apparition de quelques gelées parfois franches sur le quart nord-est.
Les prévisions de Magali Rochereau.